Voilà, nous sommes partis. La première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Bon, c'est quelque chose qu'on prend pour une recommandation morale, psychologique, quasiment un devoir. Moi, j'ai souvent lu comme ça. Ouais, je peux pas dire que j'ai toujours été joyeux, et puis être joyeux, se forcer à être joyeux, je ne sais pas, j'ai pas la recette, moi. Si ça m'arrive, pour décontracter ma nature et pour décontracter parfois les autres, des blagues, raconter des blagues. J'en connais beaucoup, j'en invente, Noémie maintenant en invente aussi, et parfois c'est elle qui me charrie. On est joyeux parce qu'on a l'art de se rendre joyeux. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, regardez après, verset 17, prier sans cesse. Ben, prier sans cesse, ben, c'est la même chose, hein. Oh là 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 là, quelle mécanique, toujours en train de faire des prières. Oh, mais il y a des années de ma vie où je n'ai pas prié. Il y a même en tant que chrétien, parfois, il y a des moments où je n'ai pas prié, en tant que pasteur aussi. C'est lamentable. Alors, je me dis, prier sans cesse, mais il met la barre, je ne sais pas quoi. Paul, est-ce que c'est un martien? Vous comprenez? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est à notre portée, tout ce qu'il dit? Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc j'ai mal au dos, je marche avec une canne, je dois rendre grâce. Hein? Bon, j'ai mal à la tête, j'ai la gastro-entérite, je dois rendre grâce. Il y a le soleil, il y a les belles forêts, je rends grâce. Il y a à manger sur la table, je rends grâce. Il n'y a pas à manger, je rends grâce. Tiens, j'ai pas de sous, je rends grâce. J'ai des factures dans la boîte aux lettres, les factures, je rends grâce. Tiens, quand je roulais trop vite dans le village, je n'ai pas vu, il y avait un radar. Paf, ça frappe 90 euros, 130 euros. Aïe, aïe, je rends grâce. Oui, oui, oui. C'est quand même bizarre cet évangile-là, cette parole de Dieu et cet apôtre Paul. Est-ce que Jésus a parlé comme ça? Eh bien, oui, Jésus faisait et il rendait grâce à son Père tous les jours. Il allait dans la montagne, il rendait grâce, il apprenait ses disciples à rendre grâce. Donc, nous sommes dans un évangile qui n'est pas humain. C'est comme pardonner 7 fois 70 cette fois, c'est pas humain. Obéir à Dieu, c'est pas humain. C'est quand même drôle cet évangile qui n'est pas humain et qui s'adresse à des humains. Programme impossible. Monter à l'Everest sans jambes, sans bouteille d'oxygène, c'est à peu près ça. Programme impossible pour l'homme. Oh, douce humiliation, dit Luther, douce humiliation de mon âme qui se mortifie, ne sachant pas atteindre les cimes que Dieu m'a préparées. Et dans les psaumes, David dit, oh, la douce colombe qui s'élève, qui voudrait bien atteindre Dieu, les cieux. Mais il y a un fil, il y a un fil. Ah, c'est pas, et plus elle monte, plus le fil devient lourd, plus le vent accable le fil et la retire vers le sol. Voyez notre âme, à quel point elle peut être encombrée par ce qu'on appelle la chair dans la Bible, par l'humanité. L'humanité abîmée par le péché d'Adam et Ève, n'est incapable d'accomplir le plan de Dieu par elle-même. Et notre ami Paul, c'est un ami, c'est un frère dans la foi. Quand on sera avec le Seigneur, on va lui serrer la main, on va l'embrasser. Hein? Et on verra Esther, Rebecca, on verra bien d'autres, vous verrez, ça sera extrêmement sympa. Ça sera oublié, on oubliera la vallée des larmes. Et pratiquement, comment sont-ils arrivés là-bas? Mais parce que Dieu a fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui ouvre sa porte. Et quand on a ouvert sa porte, quand Jésus est mort sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Le voile du temple s'est déchiré. 9 mètres sur 11, 10 centimètres d'épais, crac, boum. Le sanctuaire était ouvert à tous. Donc nous avons un accès à Dieu à cause du sacrifice de Jésus. Et la grâce, c'est d'arriver à s'exprimer auprès de Dieu, de déposer notre misère. Luther dit « anfectum »,« pensée affligée »,« affectée hein ». Nous sommes affectés par nos, même désespérés par notre façon d'être, qui n'arrive pas à obéir à Dieu. Nous sommes déchirés par cette nature qui est incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu le permet, c'est une épreuve salutaire, qui nous amène à découvrir notre faiblesse, notre incapacité. Et c'est ainsi que Paul dit dans 2 Corinthiens, j'ai supplié Dieu, par trois fois, de me débarrasser de cette écharpe dans la chair, il était très malade, et très attaqué par le malin, et Jésus lui a répondu, non, c'est dans ta faiblesse que je me glorifierai, ma grâce seule te suffit. Le chemin du chrétien, c'est d'en arriver à être dépourvu de ses propres moyens de sainteté, de ses propres moyens de s'auto-justifier, de ses propres moyens d'accomplir la volonté de Dieu. Il est confronté à lui-même et sa nature est rebelle. S'il n'est pas rebelle, Satan développe en lui des rébellions. S'il a l'air d'être tout conciliant avec Dieu, bien disposé, Satan va mettre des chemins, des trucs pour qu'il n'obéisse pas. Dans un cas où c'est le péché, ou c'est Satan. Mais l'affliction du cœur, c'est un chemin par lequel il faut passer. Heureux les affligés, car ils verront Dieu. L'affliction ne vient pas des autres. L'affliction vient d'une expérience de notre nullité, notre néant, à obéir et à parfaitement obéir à Dieu, c'est-à-dire rapidement. Quand on aime obéir, on obéit rapidement. Quand on obéit, mais à retardement, très longtemps après, c'est parce qu'on n'a pas vraiment un vrai amour pour Dieu. Et donc, ça nous afflige de ne pas avoir un vrai amour pour Dieu. Ça nous afflige d'être comme ça, et c'est quelque chose, une expérience qui est nécessaire, d'après Luther, par laquelle on passe. Alors, où est la joie si on est affligé de ce qu'on est et de ce qu'on, surtout, on n'est pas? Ah, on va prendre la parole de Dieu, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Au chapitre 5, verset 9, de 1er aux Thessaloniciens, nous qui sommes du jour, c'est-à-dire en Christ, sauvés dans la lumière de Christ, soyons sobres, c'est-à-dire soyons économes dans nos passions, dans nos convoitises, ne tombons pas dans les concupiscences. Les concupiscences, c'est quoi? C'est une façon d'être sans Dieu, où on s'affirme, soit par l'argent, soit par le sexe, soit par de la possession matérielle, peu importe, soit par une réputation, soit par une belle voiture. Aujourd'hui, les amis, c'est, nous voyons notre société. Moi, quand j'étais petit, les gens s'affirmaient, c'était le plus gros tas de fumier dans le village. Le plus gros tas de fumier chez les fermiers, c'est là que tout le monde voulait marier sa fille ou son garçon. Yavol, un petit tas de fumier, 3 vaches et 2 hectares, parce qu'il y avait beaucoup de paysans comme ça, c'est pas la peine d'aller marier son fils ou sa fille là. Et les parents se mettaient en travers si le jeune homme et la jeune fille s'aimaient. J'ai connu des choses pareilles. Je les ai vus observer tout gosse. Je faisais avec ma tête et mes yeux le tour de ce qui se passait. J'ai toujours aimé faire ça, non pas pour juger, mais pour me demander dans quelle piscine j'étais tombé, dans quel monde. Ben, ma foi, c'était ça. Mais aujourd'hui, plus on avance, plus vous regardez sur la route, vous avez des Audi et des BMW, des grosses Volkswagen. Tout le monde cherche à avoir ça. Si j'ai ça, c'est que je suis bien. Je prouve que je suis réussi. Et moi, je sais, par un banquier au Luxembourg, une confidence, ils ont tous des crédits, ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir manger une tartine les derniers jours du mois. Ne crois pas ce que tu vois, ils sont dans le caca. Donc, ce que nous voyons sur la route n'est qu'une course de concupiscence au paraître. Le paraître. J'ai distribué, et naturellement d'autres de l'église, des papiers. Mais moi, comme je ne marche plus trop vite, l'hernie discale, parfois la sciatique, je marche, je vais tranquillement, je prie, je dépose des papiers. Tandis que Noémie, Vincent et d'autres, je ne sais pas qui d'autres, ont distribué leur vicomte Saint-Marc, Bénédicte, et il y a, bien sûr, évidemment, quand on est jeune, on a des pâtes, on va, on en fait beaucoup. Moi, j'aurais pas pu m'attaquer à Virton-Saint-Marc cette fois-ci, ni à Ette. Ils ont fait ces trois-là, pourtant je les ai déjà fait. Donc je me suis pris les petits villages l'un après l'autre, j'en étais, je suis parti à 5h, 6h du matin, 7h. J'en ai fait pendant une heure et demie, puis j'en avais marre, ça coinçait de trop, je revenais. Et puis j'ai fait ça un peu tous les jours, en me disant, Seigneur, nous allons à pêche aux moules. Non, aux pêcheurs. Nous voulons amener des pêcheurs dans tes filets. Les filets d'amour. Pratiquement, en faisant ça, en déposant le papier, j'ai conscience de la nullité de ce que je fais. Si Dieu ne pousse pas cette personne à venir à l'exposition, si Dieu ne compte, même qu'elle est rentrée dans l'exposition, ne la pousse pas à lire et à se poser des questions et à voir son état, si Dieu ne la pousse pas à quelque part être fatiguée d'elle-même et de déposer son fardeau à Jésus. Hein? Venez, vous qui croyez sous le fardeau, car mon cœur, ma parole est douce et légère. Hein? Si cette personne ne fait pas ça, si elle n'est pas poussée par Dieu, moi je ne sers à rien. Nous ne servons à rien dans cette salle là-bas. Donc depuis 2 jours, c'est le 3e jour, il y a quelqu'un en permanence qui tient l'exposition. Et la semaine prochaine, bon, je vais y être toute la semaine, du matin au soir. Et il y aura, le dimanche prochain, je ne serai pas là parce que je tiendrai. Pratiquement, il y aura des prédications, Bénédicte le jeudi soir. Et puis après, vous savez, Amazon Grace.
Bénédicte, c'est pas une prédication.
Elle va parler, le mot te dérange, mais elle va parler sur Amazon Grace, sur la grâce, faite à Newton. Donc, il n'y a pas de problème pour moi, puisqu'on le fait en accord. Et ce qu'il y a, puisqu'on le fait en accord, en unité, elle ne le fait pas par orgueil, elle le fait par service de Dieu. Alors, ce qui se passe, elle a les capacités de le faire. Il faut qu'elle ait confiance un petit peu dans le Seigneur, parce qu'elle est un peu craintive de nature. Elle peut le faire très bien, elle l'a fait une fois ici à l'église. Et elle va proposer la conversion de Newton, un esclavagiste, et puis le travail de Wilberforce, un jeune homme qui faisait de la politique, qui a connu Newton, et qui va se battre pendant 30 ans dans le Parlement anglais pour abolir l'esclavage. Donc vous avez la conversion, l'œuvre de la grâce, l'anéantissement de Newton par Dieu, et puis la grâce, la conversion, le service comme pasteur dans une église, et puis ensuite un jeune homme qui va servir Dieu et qui est un fruit de la prédication de Newton et qui va amener un grand fruit, l'abolition de l'esclavage. Bon, ce qui se passe, il faut savoir que dans Monsieur Newton, qui avait un bateau et qui conduisait des Africains enchaînés dans plusieurs étages, il y a eu un jour une tempête de plus d'une semaine, quasiment 2 semaines, avec des orages, des éclairs, des vagues énormes, et il était épuisé, si bien qu'il a demandé à ses hommes de l'attacher au gouvernail avec des cordes. Il tenait le gouvernail, il dirigeait le bateau dans la tempête, il a été terrorisé tellement les orages. Pensez bien que les Africains en dessous étaient terrorisés aussi, savez-vous. Et toujours, quand on arrivait aux Caraïbes, aux États-Unis, il y en avait beaucoup des morts. Il y en a qui étaient devenus fous de subir tout ça. Et pratiquement, il a demandé pardon à Dieu. Il a crié vers Dieu. Alors la tempête s'est arrêtée et il s'est converti. Il a arrêté son œuvre diabolique. Diabolique. Dieu l'a brisé. Ce que je veux dire, c'est qu'il a rendu grâce que Dieu l'avait brisé. Il a rendu grâce que Dieu lui avait pardonné son péché et qu'il le prenait à sa disposition pour être pasteur. Et ce pasteur a marché pieds nus, parce que ses esclaves étaient pieds nus, pour ne pas les oublier. Et pratiquement, il a pu rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu en toute chose, d'avoir été brisé, anéanti, terrorisé, bouleversé, et d'avoir abandonné son horreur, son péché. Quand Luther était moine, était étudiant pour être avocat, il était brillant, il était d'une classe bourgeoise, il était très cultivé, il traverse une forêt de Stortenheim et pratiquement il tombe dans un orage mais épouvantable qui dure des heures et il est terrorisé. Et il a demandé pardon à Dieu pour ses péchés, il a promis que s'il sortait vivant de l'orage, il se faisait moine. Et pratiquement, cela est un échec du moi pour que Dieu prenne la place. Rendez grâce en toutes choses, c'est-à-dire dans tous les échecs de mon moi, de ma vanité personnelle, il y a une victoire pour Christ. Si je veux bien laisser Christ prendre la place, si je veux bien déposer le vieil homme, l'homme de vanité, la femme de vanité que je suis. Rendez grâce, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, quand on a tout déposé, il n'y a plus de colère. Chapitre 5, verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc, c'est clair, celui qui est passé par cette étape n'est plus sous la colère de Dieu. Parce qu'il a laissé tomber toutes les armes et il a accepté que Jésus soit mort pour lui, que Jésus ait pris son péché et est accusé pour son péché, crucifié pour son péché, et Jésus lui a donné sa sainteté. Jésus lui a donné son trésor. Vous me direz, c'est incompréhensible, c'est des idées, j'entends ça depuis longtemps. Eh bien, je vais vous dire. Si vous avez un homme vraiment très pauvre, un vrai type, et il marie une femme très riche, et il s'aime énormément, cet homme dispose et il vit dans la richesse de sa femme. Si c'est une femme extrêmement pauvre, et qu'un homme extrêmement riche l'aime, et donnerait tout pour elle, regardez en Inde, il y a un énorme site en marbre, avec de l'eau, une allée avec de l'eau, là. Mmh. Et un prince. Comment ça s'appelle ce site?
Taj Mahal.
S'il vous plaît?
Taj Mahal.
Cet homme aimait tellement sa femme, et il l'a perdue très tôt, qu'il a fait tout ça, pour elle, démontrer son amour. Alors, si cet homme a démontré son amour pour sa femme, si dans la vie, il arrive que des gens partagent leur bien, leur richesse avec le conjoint, parce qu'ils l'aiment. Combien Dieu ne peut-il pas partager sa richesse à lui, sa gloire avec l'homme pécheur, parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Vous connaissez Jean 3,16 ? Mm-hmm. On peut le dire ? Voilà. Eh bien, c'est pas une histoire de romance, c'est pas dans un roman feuilleton, c'est ce que Dieu a fait. Puisqu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables de le faire pour leur conjoint, il y a aussi quelqu'un qui le fait encore mieux, c'est Dieu, en donnant son fils Jésus. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions. On fait ça des heures. Oui, on fait ça des heures, c'est stupide. Mais même quand nous dormons, nous vivons avec lui. Nous vivons avec lui. Je suis dans la nature, je me promène et je fais un gros renvoi. Hein? Parce que j'ai l'estomac trituré par des tracas, j'ai mal mangé, j'ai mangé trop vite, je fais un gros renvoi. Mais Jésus était là, il a entendu mon renvoi. Et quand je prie, il entend ma prière. Il voit tout, il est avec moi. Attention, nous ne sommes pas avec un soldat inconnu de la guerre 14-18. Tombe au soldat inconnu. Jésus n'est pas un soldat inconnu. Jésus est le Fils de Dieu ressuscité. Pour qui il vient, pour dans la vie, pour être connu. Pour être connu, les amis. Alors, il y a évidemment d'autres passages qui peuvent nous intéresser. Verset 8. Nous, chapitre 5, verset 8. Nous qui sommes du jour, donc de la lumière de Christ, soyons sobres. N'écoutons plus les concupiscences, les tendances, la grosse BMW, etc., tout le reste. Et puis, bon, tout le reste, les concupiscences sont de tous les genres. Hein? Voilà. J'ai toujours été impressionné. Ici, c'est terrible dans notre société. Il faut que les gens se sentent en sécurité, même les chrétiens, que si le congélateur, le frigo est rempli à bord. J'ai rencontré plein de chrétiens en Afrique, ils n'ont pas de frigo et de congélateur rempli. Et ils chantent le Seigneur pendant 4 heures. Je trouve des aberrations. Mais Dieu est plus patient. Donc je vais être patient. C'est Dieu qui arrangera les choses. Au verset 10. Nous vivons avec lui, ensemble avec lui. Ensemble, c'est parti. Pas tout seul, individualiste. Individualiste. C'est ensemble. C'est le peuple de Dieu. C'est les sauvés, ceux qui ont été brisés, qui ont déposé leur fardeau, leur vanité, qui ont trouvé la nullité de leur jeu et qui ont accepté que Dieu leur pardonne leur orgueil, leur égarement. Dieu leur a donné Jésus dans leur vie. Jésus, l'héritage que Dieu me donne dans ma vie aujourd'hui. Alors, comment peut-on constater si c'est vrai ou faux? Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, pas Galette. Galates, chapitre 2, verset 20 et 21.
Page 887.
J'ai été crucifié avec Christ. Donc à un moment donné, et c'est ça l'affliction, être affecté, c'est-à-dire se rendre compte que je dois tout lâcher, je dois abandonner, je fais mon chemin. C'est pour ça que, si vous voulez, que la vie de chaque chrétien est différente. Dans une assemblée, la trajectoire de chaque chrétien est différente. Quelqu'un me dit « je suis chrétien ». Oui, je l'entends. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie avec le Seigneur ? Ça, c'est le jour qu'il est réellement affecté sur ce qu'il se croyait être et qu'il a fini par nettoyer ça, il n'y a rien en fait. Je n'ai rien à croire de moi-même, de ce que je suis. Et je crois que le Seigneur m'aime. Je crois que le Seigneur est mon trésor, mon Seigneur, qu'il m'a aimé. Là, je trouve ce que je suis. Je suis aimé. Je suis aimé par le prince de la vie, par le juste par excellence, par le Fils de Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour moi. Alors ma vie a de la valeur. J'ai été crucifié avec Christ, donc il y a une chose dont il faut se débarrasser, c'est le vieil homme, c'est cette vieille nature égocentrique qui s'auto-affirme et qui veut bien s'accrocher. Hein. C'est comme un crocodile, hein. Quand il tient quelqu'un, eh bien nous avons un crocodile en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc l'humain, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Très important. C'est la base pour comprendre la grâce. Si il vit en moi, est-ce que Jésus l'a dit ? Vérifions. Matthieu 28. Vérifions, parce que c'est Paul qui le dit. J'ai entendu tellement de gens, surtout dans le monde catholique, hein. Oh, Paul, c'est un juif, hein, plus qu'un chrétien. Oh, il n'aime pas les femmes, si et ça, etc., etc. Bon, c'est mal connaître Paul, hein, et mal connaître ses écrits. Alors, pratiquement, il n'est pas plus juif que moi, Paul. Il est en Christ, point à la ligne. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir de m'aimer, le pouvoir de me donner sa sainteté, le pouvoir de prendre ma saleté, mon péché, de le porter sur la croix. J'ai toujours pris cette image du docteur Pasteur à Paris, il y avait des dizaines de milliers de gens qui étaient mordus par des animaux, qui avaient la rage. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Pasteur? C'est assez unique, oui. Parce qu'il avait un enseignement chrétien. Il a pensé à la substitution, un principe théologique. Et il a trouvé qu'en prenant du sang de l'enfant qui était mordu ou de la personne adulte qui allait mourir dans les 24 jours, il le mettait au cheval, le cheval développait des anticorps, il reprenait, il remettait à l'enfant et c'était fini. La rage disparaissait. Donc, qu'est-ce qu'a fait le cheval? Il a pris le mal de l'enfant ou de la personne enragée, il a pris le mal. Et puis le cheval a redonné la vie à la personne. Si c'est un principe aussi élémentaire qui peut vous faire comprendre ce que Jésus a fait, en mieux, je bénis Seigneur, que cette compréhension touche nos cœurs au plus profond. Dieu m'a donné sa justice, sa sainteté, et Dieu a pris mon péché à la croix. Ancien pasteur. Alors, le pouvoir de Dieu, c'est de opérer la purification des pécheurs. C'est de les débarrasser de ce mal, le péché, de sa puissance qui nous sépare de Dieu. Et il y a un autre pouvoir. Regardez ce qu'il a fait avec le brigand. Aujourd'hui, tu seras dans mon paradis. Il lui donne le droit de rentrer en présence de Dieu. Parce qu'il est son avocat, son défenseur. Il est digne de me défendre, de me représenter, de m'introduire auprès de Dieu. Donc, il m'a présenté juste, alors que je suis pécheur, comme un juste auprès de Dieu. Et Dieu m'accepte, parce que je suis devenu juste, à cause de Jésus. Et ça, c'est la grâce. Quand je suis en présence de Dieu, je peux lui parler. Avant, il fallait des prêtres. Il fallait des sacrifices dans le temple. Malheureusement, Saint Cyprien de Carthage a réinventé le prêtre en 365 dans les églises chrétiennes. Il n'y avait pas de prêtre avant 365. C'est une invention de l'homme, tout ça. Il n'y a pas besoin de prêtre et de pape et d'évêque. Tataratata, tout ça. C'est l'homme qui a remis tout ça en place. Le pouvoir de Christ est suffisant pour me mettre en présence de Dieu. Et il y a encore autre chose. Regardez bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il faut annoncer ce que Jésus a fait pour le pécheur, les pécheurs, sur la croix, et toute la vie telle que Jésus l'attend de nous, telle que Jésus l'a vécue lui-même. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons dans cette expression-là, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, que Jésus est dans la vie de ceux qui l'ont accepté. Donc, le pouvoir de Jésus, c'est de venir dans la vie. C'est à cause de la présence de Jésus dans ma vie, parce que j'ai foi en lui, j'ai vu le néant de ma vie, j'ai été sauvé, j'ai lâché mon péché, j'ai accepté Jésus pour qu'il conduise ma vie, pour qu'il soit mon maître et mon seigneur, c'est à cause de ça que jusqu'à la fin du monde, quand il y a le jugement, je ne suis pas condamné. Parce que Jésus est dans ma vie. Je ne suis pas condamné. Je passe au tribunal, mais sans être accusé. Ok? Alors, c'est extrêmement important de bien comprendre que la présence du Christ dans la vie d'un chrétien est la clé de la réussite de sa vie. Éternel. Prenons Romains chapitre 6. Ce que je veux donner aujourd'hui, c'est un message d'espérance. C'est qu'à partir du moment, aussi imparfait qu'on soit fait, parce que chrétien obéissant ou là, chrétien obéissant, et puis alors si j'obéis pas, je m'effondre, je me décourage, je me culpabilise. Et puis je laisse tomber. Ou j'y arrive, mais je vois un autre qui n'obéit pas à Dieu. Oh là là, celui-là. Oh là là. Alors on se juge. On est divisé par le jugement. Or, c'est pas comme ça que ça va. C'est que quelqu'un qui a accepté Christ, c'est Christ qui se charge de le changer. Parce que Christ a tous les pouvoirs. Alors moi, de quel droit je vais condamner quelqu'un en disant tu n'es pas un bon chrétien. Je veux lui dire, tu n'obéis pas. Mais tu ne peux pas dire que tu n'es pas un bon chrétien. Tu n'obéis pas, tu devrais changer. Parce que le Seigneur attend que tu lui obéisses. Mais je ne peux pas dire de quelqu'un que tu n'es pas un bon chrétien. Il n'y en a pas de bon en dehors de Jésus-Christ. Romains 6, verset 23. Versets 22 et 23. Romains 6, versets 22 et 23. Maintenant, étant affranchi du péché, ben oui, parce que j'ai donné tout mon désir d'auto-affirmation, toutes mes tendances auto-suffisantes, j'ai perdu tout ça. J'ai vu, en fait, je suis affligé, j'ai été affecté de mon mauvais chemin que j'ai conduit dans ma vie intérieure et peut-être dans l'extérieur. Et j'ai tout déposé, j'ai accepté Jésus et je deviens libre parce que Jésus est celui qui me conduit, m'habite maintenant. Donc je suis affranchi du péché, comme un esclave est libéré. Et je suis devenu esclave de Dieu, donc de Christ, doulos, serviteur. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Clairement, ces versets sont importants. Le salaire du péché, c'est la mort. Si je reste dans le péché, le résultat, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, ah voilà, le don gratuit de Dieu, par Christ, évidemment, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà l'explication de la grâce et de l'évangile. Le sens même de l'évangile, il est là. Prenons Romains chapitre 9, verset 11. C'est bien sûr dans Romains chapitre 9, verset 11. Paul traite de ce qu'on appelle la prédestination de l'élection de Dieu sur les hommes. Et il prend le cas de Ésaü et de Jacob, qui sont jumeaux et qui sont dans le ventre de la maman Rebecca. Mais ils se bagarrent déjà. Ils se bagarrent déjà dans le ventre de la mère. La mère est très éprouvée, Rebecca, elle était triste. Ils sont déjà en train de se bagarrer maintenant, qu'est-ce que ça va être après ? Elle avait une perception spirituelle énorme, Rebecca. C'était vraiment une femme de Dieu, Rebecca. Quand le serviteur est venu au nord de la Syrie pour la chercher, pour Isaac, elle a dit, j'y vais. Mais elle avait une vision de ce qu'il attendait. Il y avait une descendance derrière, c'était le Christ. Hein. Ce n'était pas une aventurière, c'était une visionnaire. Elle avait la vision de Dieu en elle. Elle était un instrument de la gloire de Dieu. Avez-vous la vision de Dieu en vous? Alors, ce qui se passe, c'est, ça dépend, bien sûr, de quelqu'un qui m'a mis sur la terre. Hein? Regardez bien. Quoique les enfants, donc Ésaü et Jacob, ne fussent pas encore nés, qu'ils n'eussent pas fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, donc de leurs actions durant la vie, après l'accouchement, etc., les années, par la seule volonté de celui qui l'appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Dieu positionne les gens dans des places. Ok ? Plus loin, au verset 15, il dit à Moïse, verset 15, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, si un bandit, un tordu, mais le tordu, Dieu a le plan de sauver. Dieu va mettre quelqu'un sur le chemin, va mettre une Bible qui traîne, un là qui n'a l'air de rien, qui apparaît un objet là, mais ce n'est pas un objet, c'est la parole vivante de Dieu. Il va mettre quelqu'un, il va mettre une circonstance, pour Luther c'était l'orage, il va mettre un événement, ce que Luther appelle l'occasion de Dieu, hein, dans ses écrits, l'occasion, parfois il y en a plusieurs des occasions, pourquoi ? Pour toucher la personne. Il connaît déjà avant qu'elle naisse et sur lequel il a un plan. Et c'est ça, il faut d'abord, pour que son plan se réalise, qu'il fasse miséricorde, il faut le pardon des péchés, il faut que Dieu exprime sa compassion à cette personne et lui montre je ne m'arrête pas ton péché, tu n'es plus sous ma colère, tu es sous ma grâce en Jésus-Christ. C'est un décret de Dieu gratuit. Si vous comprenez bien, Dieu veut faire grâce. Dieu ne veut pas que les hommes aient un enfer. C'est pour ça que vous trouvez souvent dans les évangiles que Jésus est venu pour que nul ne soit perdu, condamné, naturellement. Ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que il y a des personnes qui n'ont pas l'amour de Dieu. Et ça, c'est dans Thessaloniciens, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils entendent la vérité, mais ils n'ont pas l'amour. Ça se passe. Est-ce que c'est l'homme qui décide, ou c'est Dieu qui n'a pas donné assez d'amour à la vérité? Moi, je ne suis pas assez malin pour comprendre, mais je sais que ce qu'il y a, si nous voulons avoir l'amour de la vérité, il faut être dégoûté de son moi, de son orgueil, de son autosatisfaction. Pour avoir l'amour de la vérité, il faut en avoir marre de ce qu'on est. Il faut en avoir marre de l'être pécheur que je suis. Alors, oui, si je m'incline et que j'ai l'amour de la vérité, Dieu peut me faire miséricorde et compassion. Exercer sa compassion et me donner une foi peut-être à soulever des montagnes. Vous savez la parabole des talents dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, il y a plusieurs paraboles, mais il y en a une avec les talents. Il y en a un qui reçoit 5 talents, un 3, il y a une personne 1. Pourquoi est-ce qu'il ne donne qu'un talent à cette personne? Parce que celle qui en a 5, celle qui en a 3, ont reçu le même talent. Le premier talent, c'est le même pour tous. Pour moi, j'en suis persuadé. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. C'est l'amour de Dieu sur la croix pour chacun des 3. Après, que fait-on du premier talent? Si je considère que Dieu est dur, et Dieu est là pour me juger, je considère que Dieu ne m'aime pas, je considère que Dieu ne me fait pas grâce, je n'accepte pas ce message de la croix, où Dieu me fait le pardon suprême de toute ma nature pécheresse, et où Dieu me donne sa vie. Dieu me donne sa vie et il veut me donner sa présence tous les jours, pour l'éternité. Si je refuse, j'enterre ce talent dans le sol et je considère Dieu comme dur, je ne reconnais pas son amour, sa compassion pour moi, sa miséricorde pour moi. Voilà le talent enterré. Et les deux autres, ils ont accepté le talent de la croix. Et au fur et à mesure qu'ils acceptent, d'autres talents se déversent. Celui d'aimer les autres, celui d'avoir la joie, celui de partager, celui d'annoncer l'évangile. Les autres talents ne sont subordonnés qu'au premier. Le premier talent doit être accepté pour que d'autres talents viennent. Et c'est pour ça que quand Jésus reviendra, il multipliera encore les talents à ceux qui ont enterré le premier. Eh bien, dans l'élection, je ne peux pas refuser ce que Dieu me propose de suprême. Ça, vite dit. Et comment, dans Jean chapitre 5, comment Jean, qui est un autre disciple, l'exprime? Ben, il prend une parole de Jésus et dit ceci. Dans Jean, je vais commencer au verset 21. Jean chapitre 5, verset 21. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc les amis, à qui il veut, ça ne veut pas dire il l'a donné à Noémie, mais il ne l'a pas donné à Immaculé, il ne l'a pas donné à Tanguy. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Dieu donne la vie. Il est source de vie. Il veut donner la vie à Tanguy, à Immaculé, et à Noémie, de la même façon. Pas un quart de vie, une moitié de vie, trois quarts de vie. Ou une vie, un et demi. C'est pas ça qui est dit. Il donne la vie. Il donne la vie à qui il veut. C'est-à-dire que la vie dépend de sa volonté. C'est sous sa volonté que je reçois la vie. Sous sa volonté. Si j'accepte que le Seigneur mette sa volonté en moi à la place de la mienne, c'est le lieu de la vie. Sa volonté, sa personne en moi, c'est le lieu de la vie. Donc ce n'est pas une parole arbitraire qui sélectionne les gens, c'est à moi de recevoir la volonté du Seigneur en moi, qui est vie et pas mort. Si je reste dans ma volonté à moi, je suis mort, je reste mort. Et je peux confesser artificiellement, je suis chrétien, si et ça. Je suis ma propre volonté, je suis mort. Ça se passe au niveau de la volonté, de l'esprit. L'esprit, chaque épître de Paul commence toujours, que la grâce de Dieu soit sur votre esprit. Et la conclusion des épîtres aussi, c'est au niveau de l'esprit que se passe le péché. Nous avons une âme, une conscience pour décider si ma volonté était meilleure que celle de Christ ou si celle de Christ était meilleure que la mienne. Eh oui. J'ai une bagnole pourrie devant la porte et puis il y en a une autre, une belle, hein? Une belle Pontiac là, essence et gaz. Tu peux l'avoir pour rien si tu veux. Qu'est-ce que tu choisis? Moi j'ai eu le cas. J'ai eu le cas une fois. Un pasteur de Bordeaux est arrivé. Il a dit, l'installation de gaz est refusée en France. Mon fils qui était belge à Mons, à Casto, était pasteur pour les soldats américains là-bas, à Casto, au Saint-Duché. Il me l'a refilé, j'ai pas moyen de la passer. Tu la veux? Mais tout d'un coup, me voilà qu'une Pontiac. Tu me donnes ce que tu veux. Peu importe pour lui, Robert Bisby. Et moi qui ai toujours roulé avec des charrettes, ben moi, j'étais en Pontiac. Ben oui, je suis au carrefour, les nanas me regardent, je suis à Paris. Ben oui, parce que, vous savez ça, vous avez une belle grosse bagnole, je vous regarderai, les femmes ont une autre tête avec vous. Mais ce qu'il y a, les amis, quelle est la tête de Dieu dans cette affaire-là? C'est du folklore, ça, que le visage et les regards des autres changent, en voyant la grosseur de la voiture et son style. C'est du folklore qu'on va, c'est un gros héros. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que Dieu m'a montré qu'il peut donner quelque chose alors que je ne m'y attendais pas. À qui il veut, quand il veut, comme il veut. Est-ce que j'accepte la liberté de Dieu et sa souveraineté? C'est ça la conversion. Alors, continuons. Jean, chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Donc, je suis, durant tout le temps de ma vie, je ne suis pas sous un jugement. Je suis sous la capacité de l'initiative de Christ. Je suis en attente d'être sauvé ou je suis sauvé. Le jugement, ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. C'est le temps de la grâce aujourd'hui, pour n'importe lequel, pour n'importe laquelle. Alors, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Donc, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors regardons bien verset 24, je vous le dis, en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Écoutez ce que Jésus me dit, écoutez ce que Jésus a fait pour moi dans son évangile, c'est la puissance qui me sauve, c'est la puissance de vie. Romains chapitre 1. Voilà pourquoi Luther, tout d'un coup, il a basculé. Le moignon qui a fait beaucoup d'assaises, qui a fait beaucoup de prières, qui a fait des messes, il était prêtre, tout d'un coup, le voilà qui est sauvé en lisant l'épître aux Romains. C'est pas parce qu'il faisait des œuvres qu'il était sauvé. Pas parce qu'il était sincère qu'il était sauvé. La sincérité ne sauve pas. On peut être séparé de Dieu sincèrement. Romains chapitre 1 verset 16, je n'ai point honte de l'évangile, donc du message de la croix, où Jésus est mort pour mes péchés. Avec tout ce que je vous ai dit avant, je pense que c'est clair. C'est une puissance de Dieu. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc dans Jean, celui qui écoute ma parole, qui la met en pratique, est passé de la mort à la vie. Pour ce passage de la mort à la vie, il faut une puissance. Dans Matthieu, quand Jésus dit « J'ai reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », c'est pour exercer sa puissance, pour donner la vie. C'est pas pour être mieux que Macron ou que Trump. C'est pas des puissances pareilles, lui. C'est rien du tout ça. C'est la puissance de faire passer un mort à la vie. Un enfant perdu dans les pattes du diable et du péché, qui redevient l'enfant de Dieu. L'enfant prodigue qui redevient, qui vient dans les bras de son Père, et qui est aimé, qui reçoit toutes les grâces de son Père. Alors, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, ça veut dire ça. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. C'est quoi ça, la justice de Dieu? Dieu a décrété que parce que Jésus a payé pour moi, et que je crois en Jésus, Dieu a décrété que j'étais vivant. Dieu a décrété qu'à ses yeux, je n'étais plus accusable. Accusé. Dieu a décrété que je n'avais plus à avoir d'angoisse et de peur. Et il n'y a plus de colère de Dieu sur moi. Il n'y a qu'un regard favorable d'un papa qui a retrouvé un fils qui était perdu, une fille qui était perdue, à cause du sang de Jésus, à cause de la foi que Dieu a déposée dans mon cœur et que j'ai acceptée. Que j'ai acceptée. J'ai accepté la foi que Dieu engendre en moi. Alors, donc, en lui révéler la justice, donc le pardon de Dieu, par la foi, pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc le juste, c'est celui qui est pardonné par le sang de Jésus. Il vit par la foi. La confiance dans le Seigneur Jésus, présent dans sa vie. Le Seigneur de la vie. À Dieu, le sacrement de baptême qui sauve. À Dieu, le sacrement de confession qui pardonne les péchés, etc. À Dieu, monsieur le prêtre, ou monsieur le pasteur, etc., qui veut faire croire qu'il est nécessaire pour sauver quelqu'un. À Dieu, monsieur le pape. Seulement Jésus-Christ. Paul l'a dit. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. C'est tout simple. Et c'est assez. Et c'est assez. C'est déjà beaucoup à comprendre, je trouve. Et c'est assez. Mais ça sera moins compliqué que tous les conciles et toutes les histoires qu'on a inventées. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, donc intermédiaire, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà, vous l'avez vu, chapitre 1, verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, donc crue, acceptée, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc, pourquoi qu'il dit dont je suis le premier ? Ben, je ne vais pas regarder les autres. Hein. Je vais d'abord me voir moi-même. Hein. C'était lamentable, hein. J'étais dans un sacré pétrin hein, avec mon truc là. Hein. Et je m'y croyais, hein, sauvé. Je me croyais juste. Hein. Et j'étais rien du tout avec ma religion. Et ici, je suis venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ce qui est un signe de modestie incroyable de la part d'un homme comme notre ami Paul. Hmm? Vous voyez ? Alors, ce Jésus, dont on a dit qu'il a un pouvoir énorme, il a un pouvoir de me ôter mon péché, de me donner la vie. A-t-il un autre pouvoir ? Oui. Marc chapitre 1, verset 22. Il a un autre pouvoir, et ça c'est important, parce qu'on entend trop parler du copain, qu'on appelle le diable. Ne lui donnant pas de pouvoir, il les a tous perdus à la croix. Il ne fait plus que des arrière-combats. Quand les Alliés ont débarqué à Thessalonique, à Salonique en Grèce, à Moncassin en Italie, à Alger, et qu'ils ont gagné la bataille en Libye, hein, avec Montgomery, et qui contre Rommel, quand ils ont gagné le débarquement en Normandie, ça en était fait, d'Hitler. L'offensive von Brouchtet, c'est quoi ça? Il a des beaux chars, des chars tigres, il a de tout. Il a des soldats de 15-16 ans, 14 ans dedans. Les Jungen Hitler, fanatisés. Des pauvres gars qui ont été, on leur a bourré le crâne, qui vont avoir en face d'eux une armée rodée. Et en plus, pas d'aviation. Quand le brouillard disparaît, l'aviation américaine pulvérise tous les chars. La guerre Von Rundstedt. C'était une guerre perdue d'avance. Mais elle était dirigée par un fou, Hitler. Von Rundstedt obéissait à un fou. Quand vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie et qu'il y a des attaques de Satan, c'est un fou qui vous attaque. Il a déjà perdu. Il a déjà perdu. Ne lui donnez pas des pouvoirs de ci, de ça. Il a perdu la bataille. Pour témoigner de ça, j'ai pris des textes. Marc chapitre 1, verset 22. À Capernaum, dans la synagogue, Jésus parle, c'est un de ses premiers discours publics, et les gens étaient frappés de sa doctrine, donc sa dogma, c'est-à-dire enseignement. Il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Ayant autorité, exousia, ça veut dire une parole qui vient d'autre part que de lui-même, qui est déposée en lui et qui est donnée. C'est la parole divine. Ça va ? Et que fait Satan ? Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, donc un démon, et il n'y en avait pas sûrement qu'un, hein, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Vous voyez, nous, il y avait des autres démons. Dans un lieu de prière, hein. Imaginez ce que ça veut dire encore aujourd'hui. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Tu es venu pour nous perdre. » Satan sait qu'il est perdu. Satan sait qu'il est perdu. À Gadara, quand le gars est lié dans ses chaînes et qu'il casse toutes, hein, ils sont légion dans l'homme. Il est déjà venu pour nous tourmenter. Le temps de nous tourmenter est-il déjà arrivé ? Je mens, quoi. Alors, il demande un soulagement, c'est d'être jeté dans les cochons, voilà, dans la mer. Dieu permet que Satan vise encore aujourd'hui pour un certain temps, mais Satan sait qu'il est condamné. Et Satan n'agit pas sans la permission de Dieu. Il n'y a rien qu'il peut faire sans qu'il soit permis. Ça, c'est peut-être une question à débattre à un autre moment. S'il y avait une journée de l'Église et tout, on pourrait, hein, donner des enseignements là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui arrivent sur la terre et que Satan agit et que Dieu le permet ? Il y a des explications dans la Bible, hein, évidemment. Mais n'oubliez pas ce que dit Luther. L'affliction, l'épreuve est nécessaire pour que l'homme abandonne son orgueil, son péché, et accepte la grâce de Christ. Donc si Satan attaque, il contribue aussi, peut-être, à mon épreuve, pour que je lâche et que j'accepte Christ. Marc chapitre 1, verset 27. Verset 27. Ils furent tous saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine, donc un nouveau enseignement. Ils commentent avec autorité, même aux esprits impurs, ils y obéissent. Donc Jésus a l'autorité sur les démons. Les premières fois, moi, que je suis arrivé dans des manifestations sataniques, je ne m'arrête pas. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, je n'ai jamais assez compté sur toi. J'ai jamais assez compté sur toi, Seigneur, je te demande pardon. J'étais en face des gens possédés. Hein. Je te demande pardon, Seigneur. Il faut que je m'approche encore de toi, il faut encore que tu me changes, il faut encore que j'apprenne à compter beaucoup plus sur toi, et à savoir que tu es là tous les jours, à tout instant. Seigneur, après je veux bien accepter de les affronter. Et puis ça arrive un jour, oui. Mais sans ça, j'ai laissé ma peau. Hein. Je n'ai pas osé m'aventurer dans ce domaine-là sans être plus en relation vivante avec le Seigneur Jésus, régulièrement et fidèlement, fidèlement, ou celui qui prend toute la place. Et je n'ai pas accepté d'affronter des esprits pareils pour ma petite gloriole, hein, faire le malin devant tout le monde. Jamais. La seule gloire de Christ qui compte. Dans Marc, au chapitre 3, verset 11, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Donc, le Satan, l'archange révolté et les démons savent qui est Jésus. Ok ? Au début de Marc, au chapitre 1, verset 24, tu es le Saint de Dieu. Mais ici, tu es le Fils de Dieu. Satan sait très bien qui vient sur la terre et qui va commencer à prêcher et mourir sur la croix. Alors là, c'est, pour lui, c'est la fin des fins. Pour lui. Donc Jésus a l'autorité et le pouvoir aujourd'hui, en toutes circonstances, sur mon péché, il l'a sur Satan. Pour quelque chose ou l'autre, où j'entretiens des péchés, j'entretiens des choses, si Satan m'attaque, c'est avec la permission de Dieu. Afin que je sois affligé, non pas de Satan, mais de mon orgueil, de mon péché auquel je suis encore attaché, pour que je lâche tout et que j'accepte totalement la plénitude de Christ. Avez-vous compris? Ça, c'est le message de Luther, c'est le message de la grâce. Alors, mon être brisé par le péché, oui, mon être brisé par le péché, Romains 7, verset 24-25. Romains, chapitre 7. Pourquoi? Mais parce qu'on a une nature... on est quand même... quand il y a des messages un peu stupides qui disent « Je suis chrétien, c'est tout. Le péché, il n'y a plus de place pour le péché. Je n'ai plus besoin de me battre contre le péché. J'ai reçu toute la grâce. » Il y a au nord du Bénin, à peu près 600 églises fondées par des Chinois, où c'est ça. Vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes sauvés, etc. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de sanctification, vous êtes sauvés. On ne prêche pas la sanctification. Pourquoi? Parce qu'on dit tout simplement qu'on est sauvé, on est sauvé. Bon, ça y est. J'ai reçu le magot à la loterie nationale, mais je fais l'idiot, je le dépense tous les jours, et 3 ans après, je n'ai plus rien. Moi, j'ai connu des gens qui avaient gagné à la loterie nationale. 3 ans après, ils n'avaient plus rien. Ils avaient tellement fait l'idiot qu'ils étaient indigents. Si Christ nous donne quelque chose, c'est un don précieux de vie qu'il faut entretenir en nous. Alors, Romains chapitre 7, verset 24. Vous savez que tout chapitre 7, c'est sur le péché de quelqu'un qui est sauvé. C'est pas pour un incroyant. Hein? Donc, je vais peut-être prendre ici au verset 14. Nous savons que la loi de Dieu est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc, par Adam et Ève, évidemment. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. C'est Paul qui dit ça, il est sauvé déjà. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi de Dieu est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, dans mon humanité. J'ai la volonté de vivre dans le bien, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, donc aimer Jésus, etc. On ne peut pas aimer Jésus et croire en Jésus pour l'imiter. Il y a eu beaucoup de fausses doctrines. On n'est pas chrétien, j'aime Jésus. Je veux faire tout mon possible pour le suivre. Mais ça, c'est un mauvais message qui a été donné. Mon amour n'est pas suffisamment puissant et authentique pour me donner la puissance sur mon péché. Il faut que tout soit brisé en moi et que Christ soit en moi. C'est pour ça que Paul a dit dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié en Christ. Donc la foi chrétienne n'est pas une imitation de Jésus. Ce n'est pas l'acceptation des paroles de Jésus sentimentalement, je vais dire de manière éthique, morale. Il faut un miracle dans l'être, que mon être soit crucifié et ressuscité. Je reçois Christ, ressuscité en moi. Alors, quand le chrétien a accepté le Christ, il sait qu'il y a la vieille nature où il faut toujours prouver par soi-même qu'on est chrétien. Il faut toujours se donner bonne conscience. Il faut toujours s'affronter à son petit jeu qui revient et dont qu'on aime bien. Hein? On l'aime bien, ben oui. Ben, il est pourri. C'est ça qu'il veut dire. Il est pourri à cause de quoi? À cause du péché qui habite en moi. Verset 20. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette réalité, cette loi. Quand je veux faire le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, donc celui... Je suis chrétien, je suis en Christ, mais je vois dans mes membres, dans mon humanité, dans mon être, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de ma foi, qui me rend captive de la loi du péché, qui est dans mes membres. Donc Paul dit, et Luther aussi, reconnaissent qu'il y a toujours un combat chez le chrétien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une visibilité de ce qu'est l'homme sans Dieu, il y a une visibilité de ce qu'est l'homme avec Christ. Chez le chrétien, il y a les deux. Et s'il s'analyse, s'il s'examine, il voit les deux. Et il doit choisir. C'est ça le libre examen, la liberté de conscience chez les protestants. Comprenez bien qu'il n'y a pas de vraie liberté de conscience, de libre arbitre, sans la présence de Christ. Quand vous êtes dans le péché totalement, vous n'avez pas la liberté de conscience. L'examen. Vous êtes tellement dans le caca que vous ne le sentez plus. Vous croyez que le bébé qui a le caca plein les langes, il trimballe, vous croyez que ça le dérange? Et tout le monde qui le sent dans la pièce, pas lui. Alors, c'est la même chose avec le pécheur. Le Saint-Esprit le sent, c'est le Saint-Esprit qui veut convaincre la personne, t'as du caca dans les langes, il faut qu'on te nettoie. C'est ça. Alors, pratiquement, ici dans le chapitre 7, c'est ça, verset 24, « Misérable que je suis !» Donc, je suis digne d'être misérable, je suis toujours en péché, si je m'écoute, je suis dans le péché. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Donc, qui me délivre de cette humanité qui me ramène toujours à me séparer de Dieu? Je ne suis pas séparé de Dieu parce que j'ai accepté Christ, mais il y a toujours quelque chose en moi qui me ramène à me séparer de Christ, à me séparer de Dieu. Qui est-ce qui va me débarrasser de ce bazar qui m'embête, hein? Alors, regardez comment il s'y prend, Paul. Et Luther a bien compris ça. Proclamer la victoire de Christ. Eh oui. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous proclamez la victoire de Christ à la croix, si vous reconnaissez l'autorité de Christ sur vous, le péché recule et Satan aussi. Les artifices du péché ne nous amèneront plus à être privés de la vie éternelle, mais les artifices du péché vous amènent à vous priver de la communion de Jésus, de la paix. Et les artifices de Satan, c'est la même chose, vous privez de la paix. Vous prenez de l'obéissance. Alors que Dieu a le meilleur pour vous. Il vous a déjà donné le meilleur, c'est le salut. Vous avez cru en Jésus. Mais il veut vous donner la deuxième chose qui est la meilleure, c'est la sainteté, la sanctification. Le chemin avec lui. Et ça, vous n'avez qu'une clé pour le faire. Je n'ai qu'une clé. C'est rendre grâce à Dieu. De ce qu'il est pour moi, de ce qu'il fait en moi, de tout ce qu'il est. Voilà. Les amis, la foi, c'est la louange, c'est la reconnaissance de la grandeur de Christ. Vous voyez ? C'est la reconnaissance de Christ. C'est pour ça que c'est mis, soyez joyeux, rendez grâce sans cesse. C'est la clé de la vraie paix. Si vous ne prenez pas l'habitude d'aller régulièrement dans la parole pour retrouver l'identité de votre vraie foi, vous ne trouverez qu'une foi de religieux. Vous vous embourberez dans votre moi, dans les artifices du péché, les artifices des pièges du diable. Il faut aller dans la parole, il faut la méditer, et il faut se rappeler ce que je vous ai dit. C'est extrêmement important. Et ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi, hein. Ça vient de Christ. La foi naît de ce que l'on entend, Romains chapitre 10, verset 14, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je n'oserai pas ajouter autre chose ou retirer, parce que je sais que Jésus est ici. Pour vous comme pour moi, c'est Christ et sa parole qui me donne la vie. Il n'y a pas d'église qui donne la vie, il n'y a pas de pasteur qui donne la vie en mettant les mains. Essayez ça. Il n'y a pas de sacrement qui donne la vie. La parole de Dieu et le Christ ne sont qu'un et donnent la vie. Voilà. La vraie autorité dans ma vie, c'est Jésus-Christ et sa parole. Quand Dieu a dit, dans le monde de la transfiguration, à ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, « Écoutez-le, celui-ci, mon fils bien-aimé. » Aujourd'hui encore, Jésus me dit ça. Et à vous aussi. « Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. » C'est pour ça que Paul a dit, « L'évangile est la puissance de vie pour celui qui croit. » Réfléchissez bien tout ça. Nous sommes à la porte d'un royaume incroyable de vie, de gloire, où nous restons devant la porte. Nous avons à notre disposition quelque chose qu'on n'achètera jamais avec nos sous, avec notre travail, avec notre jeu, et que Dieu nous offre gratuitement sa gloire. Sa gloire, les amis. Et Satan est jaloux. S'il peut nous faire dérailler, Satan est jaloux. Il aimerait bien qu'on ne croie pas à ce que Dieu nous a donné et qui est extrêmement élevé et précieux. Jésus, dans le cœur de Jean, a tellement touché Jean que dans son prologue, Jean dit ceci: nous avons reçu grâce sur grâce, plénitude sur plénitude, vérité sur vérité dans le Fils de Dieu. Amen. Qui veut prier ?